France Musique. Musique Matin. Saskia Deville. France Musique.
Nous sommes le samedi 6 février, soyez les bienvenus sur France Musique. Félix Levaché est à la réalisation, Emmanuel Mandincamp et Emmanuel Rose à la technique. J'espère que vous avez passé une excellente semaine à l'écoute de France Musique et quelle belle idée vous avez de continuer avec nous en ce samedi matin. Voici ce que je vous propose ici, 9h, je vous propose de rencontrer la trompettiste R.L. Besson qui partagera un choix musical avec nous d'ici 15 petites minutes. À 8h, dans sa chronique Battement de cœur, Marc-Olivier Dupin nous emmènera en Polynésie, à la découverte de l'Hyménée. À 8h15, notre reportage, Sophia Anastasio nous fera, elle, découvrir le prix Swiss Life à quatre mains, qui mêle musique et photographie. Notre invitée du jour sera Inès Léonard-Duzy, PDG de l'ONG Digital for the Planet. Nous parlerons d'écologie numérique à l'heure du spectacle vivant qui se vit désormais en ligne. Enfin, à 8h50, Christophe Chassol se penchera sur le cas de Steel Pulse, groupe de reggae anglais unique. Très bon réveil.
Thank you.
troisième mouvement de cette quatorzième sonate, sonate au clair de lune de Beethoven, interprétée ici par Alfred Brendel pour démarrer ce matin. Et puis on va continuer avec une nouveauté, avec un extrait de ce nouveau disque intitulé Try, qui veut dire essaye. C'est le nouveau disque de la trompettiste Hérèle Besson qui sera avec nous d'ici une poignée de minutes. Ce disque est sorti hier chez Papillon Jaune, 11 titres entre ombre et lumière, un voyage aérien et sensuel. En voici un extrait ce matin. Thank you. The Sound of Your Voice, Part 1. R.L. Besson, un extrait du nouveau disque de la trompettiste R.L. Besson, ici accompagné au clavier par Benjamin Mousset, Fabrice Moreau à la batterie, et puis la voix d'Isabelle Serling, qu'on pouvait entendre également sur cet extrait de ce nouveau disque qui vient de paraître hier, disque intitulé Try, sous le label Papillon Jaune. 7h45, c'est l'heure de notre concours. Ce matin, je vous offre ce magnifique disque de sonates de Jean-Sébastien Bach, enregistré par l'altiste Antoine Tamestit et Masato Suzuki, qui est ici au clavecin, mais qui est également chef principal du Bach Collegium Japan. 3 sonates pour violet clavecin de Bach jouées et sublimées dans cette version pour alto. Alors pour tenter votre chance, il faut répondre à la question suivante sur francemusique.fr, sur la page de l'émission Musique Matin. Vous cliquez sur Contactez-nous et vous nous laissez la bonne réponse évidemment et puis toutes vos coordonnées. Voici la question. Combien de cordes sont tendues sur un alto? Y en a-t-il 27, 4 ou bien une seule? Si vous avez la bonne réponse, rendez-vous sur francemusique.fr. Bonne chance à vous. Thank you. Les troisième et quatrième mouvements de cette sonate BWV 1027 de Jean-Sébastien Bach, interprété ici à l'alto avec Antoine Tamestit et Masato Suzuki au clavecin, un extrait de ce disque paru chez Harmonia Mundi qui est à remporter bien ce matin sur francemusique.fr. Et puis pour vous annoncer également de noter déjà votre agenda le vendredi 19 février prochain, au cours duquel sera diffusé un concert enregistré il y a peu, le 13 décembre dernier, à l'Auditorium de Radio France avec Antoine Tamestit à l'alto et puis Thierry Esquèche au piano, accompagné par des musiciens de l'Orchestre National de France. Très beau concert qui sera donc diffusé le 19 février prochain à 20h sur France Musique. Mais bonjour, R.L. Besson.
Mais bonjour, Saskia.
Mais quel plaisir de vous avoir avec nous ce matin sur France Musique.
Quel plaisir de venir si tôt, samedi matin, c'est super de vous voir.
C'est pas mal de partager un petit choix musical de grand matin, puis parler aussi de ce disque qui vient de paraître. Et dont on a déjà entendu un petit peu parler avec Alex Dutilly il y a quelques jours sur France Musique. Mais moi, j'avais envie d'en faire profiter aussi nos auditeurs qui nous écoutent uniquement le week-end. Nouveau disque qui s'intitule Try, qui vient de paraître donc hier. Try, essaye. Qu'essayez-vous, RLBC ?
Eh bien, c'est l'état d'esprit dans lequel on était quand on est rentré en studio en août dernier, entre les deux confinements. On a réussi à y arriver. L'état d'esprit, parce que pour beaucoup de raisons, parce que la musique, elle était assez neuve. On n'avait pas eu autant le temps de la répéter pour les raisons qu'on connaît. Et donc, on était vraiment dans cet état d'esprit. Et aussi, Try, c'est le titre éponyme d'un des morceaux dont les paroles sont « You gotta try to get the best of everything. You have to try to get the most of everybody of every day. » Donc voilà, c'est une sorte de message un petit peu. Essayons par les temps qui courent. On parle de réinventer les choses. Allons-y avec un point d'exclamation. C'était un peu dynamique et voilà.
Et d'essayer de profiter du meilleur.
Ouais, du meilleur, du moment présent, des moments qui sont actuellement assez précieux. C'est assez précieux de vous voir, par exemple, ce matin en chair et en os, parce qu'on n'a pas trop l'occasion.
Et nous n'avons pas trop l'occasion de recevoir du monde en studio non plus. Donc c'est doublement partagé. C'est vrai que l'échange d'humain à humain dans la même pièce, ça nous manque, en tout cas, en radio, évidemment. En tout cas, vous soulignez le fait qu'il est tôt ce matin. Mm-hmm. On a écouté un extrait de ce disque un petit peu plus tôt, The Sound of Your Voice, Part 1. Ah. Je trouve que c'est une musique qui accompagne merveilleusement bien ce lever du jour aussi. Ah. C'était...
Et pas écouter,
ça vous parle quand je
l'ai
ça
pas encore essayé à cette heure-ci, mais c'est promis, je vais faire l'essai demain, ou peut-être pas demain, mais lundi ou mardi, j'essaierai à 7h30 ou 7h30 de Sound of Your Voice Part 1. Écoutez, en plus de Sound of Your Voice, vous savez, c'est une trilogie qui c'est un peu, c'est en trois parties, et c'est un petit peu un hommage aussi aux voix de la radio, c'est-à-dire la voix de tout le monde finalement, ça pourrait être la vôtre ou celle des auditeurs. parce que selon s'il est tôt, s'il est tard, selon l'humeur, ce qu'on a vécu, elle change un petit peu, on a de l'émotion plus ou moins. Donc, voilà, The Sun of Europe, je suis ravie que vous l'ayez passé un petit peu plus tôt.
Et bien, on va parler justement d'émotion et parler de votre choix musical ce matin.
Ah oui.
Carole Besson, oh, vous avez choisi quelque chose qui me fait vraiment plaisir.
C'est vrai.
Bon, oui.
Bah, écoutez, je me suis mise un petit peu dans la peau de l'auditeur. Voilà, il est 7h30, 8h. Avec quoi est-ce qu'on a envie de commencer cette journée? Quelque chose de mélodieux et doux. Et il se trouve que Jean-Sébastien Bach, c'est certainement le compositeur que j'ai le plus approché et étudié dans ma vie. Et à un moment donné, j'étais violoniste dans ma vie de musicienne. Et j'ai approché les sonates et partitas, évidemment. Et bah, je pense que les mots sont faibles pour décrire, je pense, ouais, écoutons-le. J'ai juste découvert cette interprétation par Amandine Bayer grâce à mon professeur de direction d'orchestre, et je l'ai découvert il y a quelques jours ou quelques semaines finalement. Et...
cette version qui a déjà plus de 10 ans, c'est ouais, 2007 c'est si je ne dis pas
ouais,
de bêtises,
ouais,
c'est paru chez Zigzag.
Et... ouais, c'est la partie du milieu en arpège croisée sur trois cordes, c'est magnifique.
Merci beaucoup. Carole Besson, on l'écoute. Oui. À très bientôt.
À très bientôt. Merci beaucoup à vous.
Les dernières mesures de cette chaconne, extrait de la partita numéro 2 de Jean-Sébastien Bach, interprété ici par cette magnifique violoniste Amandine Bayer. C'était le choix pour nous ce matin de la trompettiste Carole Besson, qui était notre invitée pour nous parler donc de ce disque à écouter, Try, sorti hier chez Papillon Jaune, en partenariat avec France Musique.
France Musique, partenaire d'Opéra Magazine. À la une du numéro de février, Sandra Radvanovski. la soprano devrait incarner le rôle-titre dans Aïda de Verdi, la nouvelle production de l'Opéra National de Paris, à retrouver dans Samedi à l'Opéra de Judith Chen, le samedi à 20h sur France Musique, l'Opéra, comme si vous y étiez.
Il offre à France Inter son unique interview radio en France.
Good morning, this is Barack Obama and I'm on France Inter.
À l'occasion de la parution du premier tome de ses mémoires, l'ancien président américain sera lundi matin l'invité d'Augustin Trapenard.
Thank you so much for having me.
Barack Obama sur France Inter, c'est ce lundi à 9h05.
France Inter, une radio de Radio France.
France Musique.
France Musique.
Vous allez là.
Vous allez l'adorer.
Excellent réveil à l'écoute de France Musique, il est 8h. Et c'est l'heure de la chronique Battement de cœur de Marc-Olivier Dupin. Bonjour Marc-Olivier.
Bonjour Saskia.
Nous partons loin ce matin.
Oui, très loin, en Polynésie, où le chant est une pratique répandue comme dans toutes les sociétés restées proches de leurs traditions orales. Nous allons en particulier nous intéresser à une forme très ancienne et particulière, le hyméné.
Dites-nous-en davantage, Marc-Olivier.
Alors cette version pour voix de femme est plutôt occidentalisée, bien qu'elle ait été enregistrée en Polynésie.
Mais n'est-ce pas là le problème de ces musiques de tradition orale qui perdent leur couleur d'origine avec le temps et l'utilisation qui en est faite ?
Oui, c'est un problème. De la conservation patrimoniale que réalisent les ethnomusicologues en enregistrant des chants authentiques à la variété internationale, il n'y a qu'un pas. Le fossé se creuse et devient, hélas, un abîme.
Alors d'où vient le hyméné polynésien ?
Le terme vient de l'anglais hymne, un chant liturgique. Et l'origine du hyméné polynésien est bien singulière, il a une longue histoire. Le chant polyphonique occidental aurait été introduit en Polynésie par le grand conquérant, le capitaine Cook, et les missionnaires anglais au XVIIIe siècle. Voici, par exemple, l'extrait d'un psaume que les Polynésiens auraient peut-être pu entendre.
Et quel rôle a joué cette musique dans la rencontre de Cook avec les Polynésiens, justement, Marc-Olivier ?
Les Polynésiens étant un peuple extraordinairement musicien, on sait qu'ils ont été séduits par cette musique dont les colonisateurs anglais se sont servis comme outil de conquête dans tous les sens du mot. Ainsi, ces polyphonies occidentales se sont métissées avec la tradition orale polynésienne pour donner le hyméné. Le langage s'en est grandement éloigné du choral luthérien, au moins sur deux points. La scansion est beaucoup plus rythmique et allante, et par ailleurs, le langage harmonique n'est plus tonal, mais construit sur un mode fixe. Ce qu'on retrouve de la musique européenne renaissance et baroque, c'est en fait l'extraordinaire richesse polyphonique. Le hyméné est peut-être la plus polyphonique de toutes les musiques vocales de tradition orale, avec des mélanges allant jusqu'à 6 voix parfois.
Merci beaucoup Marc-Olivier pour ce voyage ce matin. On vous retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine. Bonne semaine à vous.
À vous aussi.
Musique Matin, Saskia Deville, France Musique.
le concerto italiano Rinaldo Alessandrini à la direction pour ce concerto en ré mineur, Réum 128 d'Antonio Vivaldi sur France Musique à 8h09. On va poursuivre avec un duo que j'aime beaucoup, le pianiste Cédric Tibérien et la violoniste Alina Ibrahimova. Ils se sont tous les deux rencontrés pour la première fois il y a un petit moment, déjà en 2005. Ils étaient tous les deux membres de ce merveilleux programme d'artistes de la nouvelle génération que propose la chaîne de radio BBC Radio 3 en Angleterre donc. Ils sont inséparables depuis, ont déjà enregistré des disques ensemble et puis en 2020 paraissait cet album français centré sur les sonates de César Franck et d'une rareté, la sonate pour violon en sol mineur de Louis Vierne. Je vous propose d'en écouter le troisième mouvement. Alina Ibrahimova au violon, Cédric Tibérien au piano pour ce troisième mouvement de cette très belle sonate pour violon en sol mineur de Louis Vierne, un disque paru chez Hyperion. Il est 8h14. Et c'est l'heure de notre reportage. Un an après avoir été consacré lauréat du prix Swiss Life à quatre mains, le photographe Édouard Toffenbach et le compositeur Régis Campo présenteront leur œuvre commune, Le Bleu du Ciel, à la galerie Thierry Biguignon à Paris à partir du 12 février prochain. Sophia Anastasio nous fait visiter en avant-première cette exposition.
Si les musées sont fermés, les galeries d'art restent ouvertes. Et à la galerie Thierry Biguignon, dans le Marais, à Paris, ce sont des photos d'hirondelles qui sont exposées. Elles font partie de l'œuvre lauréate de la 4e édition du prix Swiss Life à quatre mains. Nathalie Martin est déléguée générale de la Fondation Swiss Life. Elle nous présente ce prix, créé en 2014.
C'est le seul prix en France qui réunit le talent d'un photographe et d'un musicien. Donc on fait un appel à candidature environ tous les deux ans où un binôme photographe et musicien doivent présenter un projet. Donc c'est ce qui veut dire que l'œuvre n'existait pas au moment de l'appel à projet. Donc par exemple pour cette édition on a eu 150 binômes qui ont candidaté. On a présenté au jury en janvier l'année dernière 9 binômes, et sur ces 9 binômes, on en a choisi un. Et une fois qu'ils sont élus, ils se mettent en ordre de marche pour créer une œuvre.
Et l'œuvre qui est née du prix cette année, c'est donc Le Bleu du Ciel, imaginé et réalisé par le photographe Édouard Toffenbach et le compositeur Régis Campo. Le projet autour des hirondelles a été initié par Édouard Toffenbach, qui est allé ensuite chercher Régis Campo pour faire dialoguer ses photos avec des pièces musicales. On écoute le compositeur.
J'aime beaucoup le travail d'Édouard, et qui est très musical d'ailleurs. Quand on voit ces photos d'hirondelles dans le ciel, pour moi ça m'évoque à la fois une partition de musique, mais du mouvement, des rythmes, et ça me donne envie d'écrire plein de musique. Et il se trouve que ce projet était formidable pour nous tous, puisque on l'a créé pendant les confinements, pendant toute cette horrible année de 2020. Et en fait, on s'est transformé en hirondelle, en oiseau. On s'est dit, on passe par la fenêtre, on vole. Donc c'est une symbiose vraiment entre la création musicale d'aujourd'hui et l'art pictural d'Edouard.
La musique n'est pas là pour illustrer les images et les images ne sont pas là non plus pour illustrer la musique. Les pièces musicales et les photos ont leur existence propre. Nous avons demandé à Régis Campo comment ils avaient travaillé ensemble.
Édouard m'envoyait des photos, moi je lui envoyais des maquettes et puis il connaissait un peu ma musique, il savait dans quelle direction je devais aller, mais on a communiqué un peu comme ça, très intuitivement. Comme les oiseaux voyagent entre plusieurs pays, moi j'ai voyagé entre plusieurs pays oui, c'est en fait, si on peut dire, musical. Et par exemple, je suis allé faire des allusions à Björk. C'est un peu comme si j'étais un hirondelle qui va en Islande pour Björk. Je suis allé à Rome pour Ennio Morricone. J'ai plusieurs autres références comme ça. Donc pour moi, la musique voyage comme les oiseaux. C'est devenu un ballet d'oiseaux musical.
Nous avons eu droit ensuite à une visite de l'exposition avec les artistes. Édouard Toffenbach a choisi une œuvre pour nous la décrire.
On peut prendre la première tout en haut. Elle a été photographiée dans le jardin des Tuileries à Paris. C'est une petite communauté d'hirondelles qui niche en fait dans les rosaces des caissons de l'Arc de Triomphe du Carrousel du Louvre. On peut même y aller l'hiver. Les nids sont entre les pétales des rosaces. C'est très beau. Il y a une douzaine en fait de bâtons photographiques dans lequel une hirondelle apparaît dans différents moments, un peu comme de la chronophotographie. Et on y voit, l'espace d'un temps, une hirondelle passer devant un nuage, repartir avec différents battements. Et en observant un oiseau voler, d'un coup, on retrouve toutes les formes des différentes inventions pour voler.
À cela s'ajoute le travail d'un éditeur qui crée un livre qui ressemble aux artistes, nous explique la déléguée générale de la Fondation Swiss Life. L'exposition va voyager ensuite à Bordeaux, Arles et Roubaix. Le prochain appel à candidature doit être lancé cet été ou au début de l'automne prochain.
L'exposition Le Bleu du Ciel est donc à retrouver en livre et en exposition à la galerie Thierry Biguignon à Paris du 12 au 16 février prochain. Il est 8h et presque 20 minutes.
France Musique.
France Musique.
Vous allez l'adorer.
Thank you.
Le final du concerto pour violon, opus 35 de Tchaïkovski, interprété ici par cette extraordinaire Patricia Kopaczynskaïa, entourée par l'ensemble Musica Eterna et Théodore Kourensis à la direction. Il est 8h30 sur France Musique.
Musique Matin, Saskia Deville, France Musique.
Bonjour Inès Léonard-Duzy.
Bonjour Saskia.
Bienvenue sur France Musique. Je pense que cet opus 35 vous fait plaisir. Oui,
je me trompe.
tout est très bien ce matin. Vous avez fait du violon, toute jeune.
Oui, toute jeune, oui, avec beaucoup d'humilité.
Mais c'est quelque chose que vous écoutez régulièrement, ce concerto?
Oui, absolument. L'opus 35 de Tchaïkovski, c'est quelque chose que j'écoute religieusement tous les jours, vraiment.
Tous les jours?
C'est pas une façon de parler, oui.
C'est vrai? Qu'est-ce qu'il vous apporte?
Je crois qu'il m'aide à rêver, à me sentir forte. J'aime beaucoup aussi concerto pour de violon de Bach, par exemple, qui m'a beaucoup porté sur le plan poétique. J'aime beaucoup écrire de la poésie. Mais Tchaïkovski, c'est de la force, je crois, et il m'autorise à rêver.
En tout cas, ce goût pour la beauté vous a construit, Inès Léonard-Duzy. Mais qui êtes-vous? Vous êtes une femme d'abord, bien évidemment, mais vous êtes PDG de l'ONG Digital for the Planet, dont on va parler ce matin. C'est pour ça que je vous ai invité sur France Musique pour évoquer plusieurs points, la pollution numérique, l'écologie numérique. Vous allez nous expliquer tout cela. Peut-être tout d'abord, nous parler de cette ONG. Quelles sont ses missions?
Alors, Digital for the Planet est créé depuis 4 ans maintenant. On est présent sur 3 continents et son objet, c'est d'accompagner l'acculturation à l'écologie numérique. L'écologie numérique, en quelques mots, c'est l'étude des interrelations entre la machine, l'environnement et l'humain. Et comprendre comment ces impacts parfois peuvent être délétères, à la fois sur l'humain, la planète, mais aussi la société, et répondre avec des solutions. Et ce qu'on fait, c'est qu'on adresse à la fois les citoyens, de différentes manières évidemment, les entreprises et les gouvernements, aussi bien sur des changements de mentalité pour les entreprises, l'élaboration de lois pour les gouvernements, et puis de l'information, de l'éducation, de la formation pour les citoyens de 7 à 77 ans.
C'est vrai que en 2018, vous aviez réalisé cette étude avec votre ONG, et vous nous disiez 3 Français sur 4 ignorent ce qu'est la pollution numérique. C'est vrai que c'est quelque chose de qu'on ne voit pas, peut-être, et dont on a peut-être moins conscience que quand on jette un papier dans la rue.
Vous le dites très bien, en fait, le cerveau humain n'est pas câblé pour ressentir des dangers des dangers que ses sens ne peuvent pas percevoir. Donc, en effet, comme c'est invisible, ça n'a pas d'odeur, ni même d'impact concret, on a du mal à se figurer que le numérique puisse polluer. Donc c'est quelque chose, il y a encore 3-4 ans en fait, hein, même il y a 4 ans quand on est arrivé, c'était un sujet qui existait déjà, que des experts traitaient, notamment en France, on a vraiment ce côté très pionnier. Mais ça restait dans des entre-soi d'experts, dans des entre-soi très ingénériques. Et donc c'est vrai qu'il a fallu démocratiser ce savoir-là.
Et effectivement, pour donner une idée à nos auditeurs, chaque année, selon l'ADEME, les allées et venues sur Internet d'une seule personne émettent autant d'équivalent carbone que 14 000 km parcourus en voiture. Ce sont des chiffres extrêmement impressionnants.
Ce sont des chiffres qui vont de pair avec la frénésie numérique qui est la nôtre aujourd'hui. Et tout se fait sur Internet et je l'apprendrai à personne. Mais au-delà de nos usages quotidiens, de divertissement, des services, les droits fondamentaux aussi ne sont accessibles que sur Internet. Aujourd'hui, l'emploi, la recherche d'emploi se fait quasi exclusivement que sur Internet. La demande du RSA, la demande des allocations famille, des allocations retraite, tout ça, il faut avoir un Internet chez soi, sinon on n'en bénéficie plus. D'ailleurs, ça pose un sujet sur le plan sociétal que je traite dans mon livre d'ailleurs. Donc oui, évidemment, ces chiffres sont impressionnants, mais en fait, ils sont le reflet effrayant de nos comportements numériques.
Et ces chiffres, on peut les retrouver donc dans ce premier livre qui paraît dans quelques jours aux éditions de l'Observatoire, Réparer le futur, comment évoluer avec le numérique tout en étant respectueux du vivant, c'est son titre. Pourquoi est-ce qu'on parle de tout ça sur France Musique, évidemment? Eh bien parce que j'avais envie de m'intéresser ce matin à toutes ces captations de concerts, d'opéras, de spectacles desquels on se nourrit finalement depuis quelques mois avec ces confinements successifs, avec la fermeture des salles de concert. Est-ce qu'on a une idée, Inès Léonard-Duzy, de l'impact justement en termes de pollution numérique de ces diffusions?
On a de nombreuses estimations qui émanent de plein d'institutions différentes. Aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est au-delà des chiffres, il faut comprendre comment ça fonctionne. Pendant le premier confinement, où on a eu une explosion de l'utilisation d'Internet, notamment avec les réunions Zoom, le télétravail, en fait, on s'est rendu compte qu'on avait plus ou moins une espèce d'équilibre qui s'était fait parce qu'on avait drastiquement baissé nos incidences carbone sur le plan du voyage, du quotidien, les voitures. Donc, en fait, ça allait. finalement s'est rendu compte que c'était assez équilibré. Maintenant, on est dans des confinements qui sont un peu plus hybrides, où finalement on voyage, on continue de partir tous les jours, on prend notre voiture, etc. Donc je pense que cet équilibre n'est plus. Toujours est-il qu'il faut se poser la question de différentes manières. Oui, toutes ces captations, elles ont un impact. Certains, toute technologie numérique procède d'abord d'une entaille dans le sol qui va demander davantage, notamment de terres rares pour tous celles et ceux qui achètent des nouveaux écrans. Plus on achète des écrans grands, plus on exploite les ressources naturelles de la planète. Mais pas que sur le plan des usages et sur le plan de la connexion en elle-même. Ça demande énormément d'énergie fossile pour créer de l'électricité, hein, tout simplement, qui vont alimenter les centres de stockage de données, les serveurs, où sont stockés, où sont enregistrés, où sont-elles. En fait, où on alimente toute cette culture en ligne et pas que. Donc ça, c'est un. Donc évidemment, oui, il se pose la question de l'impact écologique, mais sur le plan de l'impact, moi, je considère aussi l'impact intellectuel. On en a peut-être besoin aussi. En fait, finalement, il y a des choses essentielles qu'on fait au quotidien qui demandent aussi, enfin, en tout cas, où il y a une incidence carbone. Donc, oui, peut-être que passer toute sa journée en streaming pour faire, je sais pas, des activités qui seraient plus basses intellectuellement. J'entends certains jeux en ligne qui, clairement, c'est prouvé scientifiquement qu'il n'y a pas du tout
d'apport.
Il n'y a pas d'apport intellectuel ni cognitif. Enfin, rien n'est intéressant. Mais regarder un ballet, écouter un concert, je me demande si, en fait, c'est pas nécessaire. Alors, une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. Quelle serait la solution ?
C'est ça que j'allais vous dire. Est-ce que développement numérique et écologie sont antinomiques ? C'est une question que vous posez dans votre livre.
Complètement, parce que finalement, elle est là, la question. Il faut trouver des solutions plus viables. Aujourd'hui, les technologies numériques sont un gouffre énergétique. Ça, ok, c'est un fait, et il faut trouver une réponse. La réponse, on va la trouver peut-être du côté des énergies renouvelables pour alimenter les centres de stockage de données dont je vous parlais. Du coup, on diminue drastiquement la sollicitation d'énergie fossile qui pose problème, mais pas que. Il va falloir aussi, pour toutes ces nouveaux appareils électroniques qu'on achète, il va falloir peut-être trouver des filières de métaux rares, des filières de matériaux qui permettent de les construire beaucoup plus pérennes. C'est peut-être
ou peut-être alternatif aussi.
Et complètement. Mais aujourd'hui, on a 100 millions d'appareils électroniques qui dorment qui dorment dans nos tiroirs. Peut-être qu'on pourrait réemployer ces métaux-là pour créer de nouveaux appareils. J'ai eu la chance de travailler au tout début avec le Japon, et ces derniers, en fait, pour les JO 2021, puisqu'ils ont été décalés d'une année, ont décidé d'exploiter l'or et l'argent qui sont dans les smartphones non utilisés, en fait, qui dorment dans les tiroirs des Japonais, pour fabriquer les médailles d'or et d'argent des champions olympiques. J'ai trouvé ça fabuleux. C'est quelque chose qu'on a soumis, évidemment, pour les JO français, qui auraient lieu en tout cas à Paris, et c'est quelque chose qui pour l'instant n'est pas vraiment en route. Mais vous voyez, c'est ce que je pose aussi comme question, c'est le manque d'humilité et l'excès d'ego que nous avons à penser que les poubelles, c'est moche. Moi, je pense qu'on est riche de nos poubelles, et ça pourrait être une vraie réponse. Voilà.
Tagama de Stefano Saletti et Piccola Banda Icona, si je prononce bien, Inès Léonard Duzier. C'est votre choix musical, vous nous en dites quelques mots?
C'est un morceau que j'écoutais énormément quand j'étais en République démocratique du Congo pour justement nos travaux avec Digital for the Planet où on rendait visite aux associations locales qui luttent contre le travail minier des enfants qui exploitent en fait les sols pour extraire les terres rares. Et qui nous permettent de créer des appareils électroniques. Je l'écoutais aussi beaucoup au Ghana, là où on a la plus grande décharge de D3E, de déchets d'équipements électriques et électroniques, que finalement les pays du Nord, enfin les pays développés, je sais même pas comment on doit dire aujourd'hui, il faudrait qu'on se remette tous d'accord.
Effectivement, sur le terme adéquat.
Mais qui envoient en fait ces déchets en Afrique, ce qui est en fait complètement interdit par la Convention de Bâle, notamment. Mais comment alors on le fait tout de même? C'est parce que ces déchets ne sont pas envoyés comme des déchets, mais comme des produits de seconde main. Sauf qu'en fait, ils se retrouvent véritablement dans des décharges où vous avez des enfants et des moins jeunes qui, à l'aide de barres de fer, en fait, cassent les appareils électroniques, mettent du white spirit ou des équivalents, du feu, ce qui est extrêmement nocif d'abord pour leur santé. C'est terrible, c'est en termes de dommages. Et puis aussi pour l'atmosphère. Et pour en extraire, en effet, un peu d'or qu'ils revendent à des négociants indiens. Et cet or va se retrouver dans des petits bijoux de... pas très cher, hein, qu'on trouve dans des boutiques à Paris, dans d'autres villes aussi du monde. Donc c'est un morceau que j'écoutais beaucoup, que je trouvais mélancolique et qui allait bien avec ce que je voyais et l'impuissance que je pouvais ressentir parfois, parce qu'il y a beaucoup de contradictions aussi dans ce que je raconte. Il y a les enfants, en fait, pour eux, c'est un job en or. Et finalement, essayer de les extraire de là-bas, c'est aussi les condamner.
C'est ça qui est terrible. Et effectivement, hein, vous en parlez dans ce livre, hein, Réparer le futur, que vous faites paraître aux éditions de l'Observatoire. Il y a énormément d'exemples, vous avez beaucoup voyagé, rencontré énormément d'associations qui œuvrent sur le terrain, de ces contradictions finalement, de mettre un holà à ce travail, c'est condamner en quelque sorte toute une famille à la misère aussi. C'est ça qui est terrifiant.
Complètement. Par exemple, au Congo, les enfants payent le Minerval. Bien que l'école est obligatoire, les familles doivent s'acquitter d'une petite somme, hein, c'est entre 5 et 10 francs, si je ne dis pas de bêtises, pour payer notamment le matériel pédagogique et le salaire des professeurs. Et quand les familles sont trop pauvres, les enfants vont à la mine pour payer ce Minerval. Donc en fait, quand on dit bon, on va les retirer de la mine là où ils meurent très souvent, hein, les chiffres de l'ONU sont effrayants, en fait, on les déscolarise. Et quoi qu'il arrive, ils iront trouver un autre job, peut-être parfois... encore plus compliqué.
Et moins surveillé.
Et moins surveillé, tout à fait. Donc, et ça, c'est, je pense que ça a été une des plus grandes frustrations dans ma vie, de sentir mon cœur se serrer et me dire, mais qu'est-ce qu'on fait, en fait?
D'où votre ONG Digital for the Planet pour, vous nous disiez, hein, faire prendre conscience de la pollution numérique et puis nous accompagner, nous, les citoyens, pour sans doute changer nos pratiques, moins consommer, pour parvenir à avoir, nous, notre impact aussi sur ces faits terribles. J'aimerais qu'on en revienne tout de même aux institutions culturelles. Vous travaillez, Inès Léonard Zizi, avec des grands groupes, des institutions internationales. Est-ce que vous avez travaillé ou avez-vous été approché par des grandes institutions culturelles, justement, lorsqu'il est question de pollution numérique ou d'écologie numérique?
Oui. Sur le plan de la culture, alors oui, j'ai travaillé avec nombre d'instituts français étrangers, qui, notamment en Europe, qui se sont très vite intéressés à nos sujets. Donc ça m'a permis de rencontrer des artistes, notamment européens. Je parle de la Lettonie, de l'Estonie, de la Bulgarie, de l'Allemagne. On en a fait pas mal. Et donc, je suis aussi une amateur d'art, jeune amateur d'art, avec beaucoup d'humilité, mais c'est un sujet qui m'anime depuis le début. D'ailleurs, j'ai commencé ma carrière dans l'art.
En créant une start-up
dans le numérique. Dans l'art, tout à fait. C'était à l'époque où j'étais, comme tout le monde, complètement dans un rythme effréné.
Voilà, c'était une entreprise spécialisée dans la vente d'œuvres d'art par l'expérience immersive.
Tout à fait. On s'amusait bien.
Vous étiez avant-gardiste, finalement.
Oui, c'est vrai qu'on était aux prémices, oui, de cette technologie. Mais donc oui, je travaille beaucoup avec notamment les instituts français, mais également des artistes sur des questions. En fait, on a des débats, des conversations sur qu'est-ce qu'on fait, comment demain l'art se réinvente de façon plus écologique. Il y a eu d'ailleurs une merveilleuse exposition qui a été un petit peu coupée par le Covid, qui a été menée par la Fondation EDF, qui s'appelle Courant d'air, Courant vert, pardon, excusez-moi.
pour Anvers. On avait reçu justement le commissaire ici dans cette émission en 2000.
Merveilleuse exposition. Le commissaire était assez... Enfin, ses textes dans le magazine de l'expo sont et sublimes. Et donc, je travaille aussi sur une exposition moi-même sur l'écologie numérique et le lien avec l'art, notamment l'art digital, qui aujourd'hui a le vent en poupe. Donc, ce sont des questions en fait, qu'on effleure, qu'on commence à aborder. Il y a beaucoup à faire.
Et effectivement, le chemin étant long, il passe aussi par l'éducation.
Tout à fait.
Bien, faire à suivre Inès Leonarduzzi. On va se quitter et puis rappeler la sortie de votre livre dans quelques jours. Réparer le futur, comment évoluer avec le numérique tout en étant respectueux du vivant. C'est aux éditions de l'Observatoire et c'est à lire, chers auditeurs. Merci beaucoup Inès.
Merci beaucoup Saskia.
Et à très bientôt.
À bientôt.
Amethyst and flowers on the table. Is it real or a fable? Well, I suppose a friend is a friend. And we all know how this will end. Chimney swift that finds me, be my keeper. Silhouette of a cedar. What is that song you sing for the dead? What is that song you sing for the dead? I see the signal searchlight strike me in the window and of my room. Well, I got nothing to prove. Well, I got nothing to prove.
With Dignity, ce titre de Sufjan Stevens, c'était le choix musical de notre invité Inès Leonarduzzi à 8h50 sur France Musique.
Chère auditrice, chère auditeur, chère auditrice, chère auditeur.
Bonjour Christophe Chassol.
Bonjour Saskia Deville.
Vous allez bien?
Ouais, je vais fort bien, et vous?
Mais magnifique.
Bon. Vous savez quand ça date le reggae à peu près?
Comment ça?
Le reggae, ça date de quand à peu près?
Des années 60?
Ouais, c'est ça.
Ouais, hein.
Ouais, à peu près, ouais. Eh ben, on va écouter un groupe de reggae, mais enfin, moi, un groupe de reggae unique, celui que j'ai écouté depuis ado, et puis, enfin, que j'adore parce qu'il est un petit peu particulier, il s'appelle Steel Pulse. C'est parti.
C'est bien ce grand matin.
Ouais. Alors, le morceau s'appelle Macasplaf et c'est le dernier morceau du premier album de Steel Pulse qui date de 78 et qui s'appelle Handsworth Revolution. Handsworth, c'est un quartier, c'est le quartier jamaïcain en Angleterre. Alors, c'est un groupe anglais. C'est ce qui fait aussi sa particularité, un groupe de reggae anglais. Alors le reggae, fin des années 60, ça vient de Jamaïque, cette petite île des Caraïbes. Ça vient du bento, des cérémonies religieuses. Ça a Plein d'origines. Les aussi le R&B qu'écoutaient les Jamaïcains, le R&B américain qu'ils écoutaient. Alors, ils écoutaient à la radio, donc ils n'avaient pas les temps forts. Donc les temps forts se sont déplacés. On va essayer d'écouter ce que c'est que le reggae vraiment. Il y a un truc très particulier au reggae, c'est, enfin, très caractéristique. C'est quoi d'après vous, Saskia?
Ces voix, moi je suis toujours fascinée. Oui, oui, on est toujours un peu dans la même tessiture. La basse, allez.
Moi je dirais que ça s'appelle, c'est le skank.
Le skank?
Ouais, le skank.
Qu'est-ce que c'est le skank? Ah oui, ça aussi évidemment.
C'est le contretemps en fait qui est joué à la guitare.
En fait, tout est un petit peu reggae, on peut parler de la basse aussi.
Bah en fait, c'est vraiment. Écoutez. Le contretemps. Tchik, 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 tchik. Vous l'entendez ?
Ouais.
Et ben ça s'appelle le skank. Voilà, c'est joué à la guitare ou au piano et c'est vraiment la caractéristique. C'est les accords en contretemps. Tchic, 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 tchic. Et là, ils vont être dédoublés. Tchic, 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 tchic. Rapide. Tchic, 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 tchic. Marira Luana Solucionai. Bon. Morceau fabuleux, groupe fabuleux qui est né en 75 à Birmingham, seconde ville d'Angleterre. Vraiment une rencontre entre le roots jamaïcain et les skinheads, les mods anglais. Quoi. Vraiment, c'était une époque où les skinheads n'étaient pas étaient pas les boneheads, c'est-à-dire les racistes qu'on connaît aujourd'hui. C'est vraiment la rencontre des ouvriers anglais et puis des jamaïcains immigrés là-bas. Et c'est fantastique cette musique. Écoutez-moi ce dub là. Juste la basse et la batterie. C'est qu'une histoire de forme à la musique. Hein. Je me demandais pourquoi ça avait si mauvaise presse. Par exemple, je me disais, je vais faire écouter du reggae sur France Musique. Et, bon, par
rapport à la ça a si mauvaise presse que ça ?
Mais bien sûr, c'est une musique de protestation, c'est une musique de rebelle, vraiment. C'est une musique politique. Ben, si, toujours.
Ah bon ?
Eh oui, toujours. Ça s'est répandu dans le monde entier, le reggae, mais ça reste une musique de protestation.
Je vous dirai si je reçois des mails d'auditeurs.
Ok, d'accord. On va écouter un morceau que j'écoute depuis très longtemps, qui est le premier morceau du second album de Steel Pulse. Le second album s'appelle Tribute to the Martyrs. Écoutez-moi cette intro. Avec des effets électroniques. Ces pièces passées en reverse. Alors Steel Pulse, ils n'étaient pas vraiment les Jamaïcains trouvaient que c'était pas du reggae pur. Vous
voyez ? Forcément.
Mais c'est le fait de faire leur le Marley Tour, c'est-à-dire ils ont fait la première partie de Bob Marley en 78, en tout jeune groupe, et ça les a lancés vraiment. Grosse admiration pour Marley, mais pour plein d'autres, et surtout cet album qui s'appelle Tribute to the Martyrs. Tribute aux martyrs, parle de tous les martyrs qui, avec lesquels ils ont grandi, Malcolm X, Martin Luther King, les OJO de 68, Carlos, Marcus Garvey, le Jamaïcain, Stephen Biko, le Sud-Africain enjolé, enfin tout le temps en prison, je disais. Et là, il dit Jaja watch over I. Bon, vous voyez cette tournerie qui vient de se passer, je voulais décomposer rapidement au piano, alors pour que vous rendiez compte. D'abord, attendez, juste une seconde. D'abord, on entend la basse qui fait Mi fa ré do si, fa ré do si, ti ré fa, do la fa la, do la 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 sol fa, ti da de do di, ta de do di. Et le skank, on écoute. Le skank. La mélodie voix. Voilà. Juste, et une autre forme de ça, on l'écoute, juste sur le sujet.
Jaja watch over I, evil. What you watch. Ça change complètement d'ambiance. Là, on sent un petit peu le R&B, là, hein, qui est. Ouais. Sous-jacent.
Il y a tout, c'est juste une histoire de forme. Le reggae, ça prend le skunk, voilà. Et puis la basse qui se pose, qui navigue devant, derrière le skunk.
Vous avez encore un son à nous faire entendre, Christophe ?
Ah ouais, bon, on va passer directement au dernier, c'est ça ? Passons directement au dernier. Et vous allez retrouver cette grille, d'accord, et tout. On va écouter le travail sur les chœurs.
Ah, oh, merci Christophe. Vous savez quoi?
Ouais.
Il est 8h56, on n'a reçu aucun mail de plainte d'auditeurs, donc c'est finalement peut-être plus une musique de protestation décriée en 2021 sur France
non,
Musique,
mais
tout va bien.
Elle marche parce qu'elle est hypnotique cette musique.
Et
aussi.
C'est vrai.
Et en fait, elle est de la bonne musique. Quoi. Non, mais ça me très mauvaise presse. Hein.
Ben on en reparlera, okay. Christophe. Vous nous ferez entendre d'autres groupes de reggae, j'espère, dans cette chronique.
Ouais.
Pour celle-ci, en tout cas, est à réécouter sur francemusique.fr. En attendant de vous retrouver la semaine prochaine, Christophe.
Ouais.
Bonjour, Gabriel Olivier-Aguillon.
Bonjour, Saskia Deville.
Et vous êtes plutôt reggae, pas reggae?
En tout cas, je savais l'histoire des contretemps dans le reggae.
Quel talent.
J'aurais pu répondre à votre place, je pense.
Ben,
j'attendais
écoutez,
que le micro s'ouvre.
Je propose que la semaine prochaine, on échange nos émissions. Comme ça, ce sera peut-être plus simple pour la chronique de Christophe. Il y aura quelqu'un qui suivra. Allez, hop.
Non, c'était juste cette fois-là. Allez.
Le grand moment que la France entière attend ce matin, c'est les résultats du concours, bien sûr, pour gagner ce magnifique disque paru chez Harmonia Mundi, des sonates de Bach jouées par Antoine Tamestit et Masato Suzuki. Combien de cordes sont tendues sur un alto? 27? 4? Ou bien une seule?
Est-ce que vous avez eu des réponses?
Oui.
Ah.
Et tout le monde a bien répondu, très
c'est
curieusement.
Vrai,
ouais, super.
Et vraiment un torrent de bonnes réponses.
Dans les altos, on a l'impression qu'ils jouent que sur une corde.
Non, on ne va pas commencer ce petit jeu-là. On fout la paix aux altistes. C'est un magnifique instrument. Il suffit d'écouter notamment Antoine Tamestit, mais il y en a plein d'autres, évidemment. Des grands altistes français et étrangers.
C'était pour la blague.
Merci Christophe pour votre participation. Gabriel, dans un instant, France Musique est à vous pour la suite sur France Musique. Merci à Marie-Ferdinand, Félix Levaché, Emmanuel Morzincan et Emmanuel Rose. Et merci à vous, chers auditeurs. Je vous souhaite une très très belle journée, un bon week-end.
À réécouter sur francemusique.fr.